ça.
Vous êtes prêts pour du fun, de l'actu, des surprises et de l'éclat? Cette émission est faite pour vous, alors. La Geek Nation. C'est parti pour 3 heures de folie!
Et ces heures vont être folles. Salut tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue pour la première émission de cette année 2024. Oui, c'est un fait.
Bonne année.
Bonne année. Si vous n'avez pas écouté la spéciale, très bonne année.
C'est vrai. Meilleurs vœux. Et puis, rajeunissez bien, parce que nous, je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est le cas.
Ouais, moi aussi, je pense que j'ai rajeuni de quelques mois. Là.
J'en suis pas encore là.
Vous êtes incroyable.
Voilà. C'est la crème anti-âge de Raccoon City.
Ouais.
Bref, ce soir avec moi, vous le savez toujours, ce sont toujours les mêmes. Nous avons Axel.
Hello tout le monde.
Arnaud.
Bonjour.
Et Kevin McAllister.
Non, toujours pas McAllister, mais bonjour à tous.
Quasiment le même âge en plus.
Ce soir, je leur ai fait hors antenne, on va parler jeux vidéo, super-héros, Metal Hero, et ils vont jouer comme des héros. Enfin,
c'est toujours pas drôle.
Personne n'a dit que ça devait l'être.
Ouais.
J'essaie juste de faire des intros.
C'est une très bonne intro, ceci dit.
En tout cas, ça rimait très bien.
Bref, vous le savez, si vous écoutez régulièrement l'émission, on va tout de suite passer aux news. Et il y en a 2-3, carrément. Allez.
Les news de la Geek Nation.
Les news de la Geek Nation démarrent tout de suite avec Kevin.
Ah, fort bien. Donc moi en news, il y a quelque chose qui m'a un peu touché ce mois-ci, qui est tombé. C'est une étoile. Une étoile. Effectivement, Willem Dafoe a enfin son étoile à Los Angeles. Oh, et je trouve ça extrêmement stylé. Pour ceux qui ne savent pas qui est Willem Dafoe, donc faut s'acheter une culture. Mais au-delà de ça, c'est le bouffon vert dans les Spider-Man de Sam Raimi. C'est également le mentor d'Aquaman, pour ceux qui sont fans de super-héros. Pour ceux qui sont fans de cinéma, il a joué dans Platoon, dans Existence. Et c'est le mec qui, quand il joue un méchant, il surjoue. Il a une face de méchant. Il cabotine à mort et on le sait tout de suite.
Ouais,
je me dis aussi, en voyant cet acteur que j'adore et que je trouve qu'il joue très bien, parce qu'il joue absolument tous les méchants, des gentils, des mentors, tout. C'est un acteur qui a une tête, ça ne doit pas être facile à assumer en image paternelle.
Il a une autorité, elle est puissante.
Il a raconté une anecdote un jour, le jour où il a compris qu'il avait une gueule.
Ouais.
C'est le jour où il s'est fait dévisager par des jeunes dans le métro à New York. Et il ne comprenait pas, il se dit « ouais, ils doivent me reconnaître, etc. » Et ils prennent peur, en fait, à ce moment-là.
Mais le mec, en même temps, c'est un peu comme Jack Nicholson. Tu as l'impression qu'il va violer toi, toute ta famille, sur 25 générations. Donc,
juste avec un
mais,
regard.
Voilà. Et ouais. Dernièrement, Willem Dafoe est aussi dans le film « Pauvre créature » qui est. par contre, lui est incroyable. Et les acteurs sont incroyables, mais après le film, il est.
Pour info, le Hollywood Walk of Fame, c'est les acteurs qui payent pour être dedans.
Ouais.
Donc pour le coup, c'est pas un honneur qu'on lui fait. C'est comme la Légion d'honneur, hein, tu l'achètes.
Oui,
mais ça s'achète la Légion d'honneur.
Maintenant, ouais.
Tu la payes.
Maintenant, tu la payes, ouais.
On peut te dire, oui, vous allez être élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur, mais
tu la payes.
Tu payes la médaille.
Mais quel honneur de merde.
Oui, mais en fait c'est, au-delà de ça, il faut quand même être sélectionné. C'est pas juste tu payes
bien
et voilà.
Sûr.
Il faut être sélectionné et après, tu payes ta dalle.
Mais ça explique pourquoi il n'y a que les riches qui ont ça.
Oui,
bah oui.
Ah,
mais putain. C'est pareil pour la médaille du mérite, c'est pour plein de choses quoi.
Ils n'ont pas sélectionné Arnaud encore.
Mais bref,
c'est
ça.
Ouais.
De
toute façon, j'aurais pas les moyens.
C'est les proches
même
de Willem.
Balles,
c'est les proches et les fans de Willem Dafoe qui sont réunis auprès du comité du Walk of Fame en disant ouais, lui, il vaut le coup, il est intéressant, etc. Ils étudient le truc en conclave. Et si c'est bon, ils appellent l'acteur en lui disant ça vous dit de payer tant pour avoir votre dalle.
Ouais, exactement.
Ouais, il a quand même le mérite quoi.
Mais le fait que Willem Dafoe, qui est généralement un second couteau quand même dans les films, il a rarement le rôle principal. Même dans Platoon, c'est plutôt un film choral où
c'est Charlie Sheen
ouais,
qui
c'est
prend
Charlie
la vedette dans le film.
Et oui, voilà, il est toujours en second rôle et je trouve ça assez énorme que enfin un acteur de cette trempe ait son étoile.
Carrément.
Voilà pour moi.
Moi, je vais vous faire réfléchir avec ma news.
Ouais.
On va faire un tout petit débat, mais très, très rapide. Vous le savez, Ubisoft a sorti un jeu qui s'appelle Prince of Persia, The Lost Crown. On est ça ?
On avait parlé le mois dernier. Ne
t'inquiète pas.
C'est ça ? Axel vous en parlera, il y joue, il kiffe, machin, tout ça. Mais en même temps que le jeu sort, je crois que c'est le responsable commercial de Ubisoft qui balance une dinguerie à la presse en disant bah, les jeux physiques, ça sert à rien. Ouais, vous ne les possédez plus, donc à quoi ça sert ? On passe tous au démat ou pas ?
Ouais,
parce que lui, il voit l'avenir dans les services de VOD et du jeu vidéo type Xbox Game Pass, et il dit que de toute façon, vous pouvez peut-être posséder votre galette chez vous, mais si la galette ne se connecte pas au serveur ou qu'il ne peut pas le faire, eh ben, quoi qu'il arrive, votre jeu n'existe pas. Donc, et lui dit que ça sera une révolution dans le jeu vidéo le jour où on passera au tout des maths, les prix seront largement inférieurs, on payera son abonnement et basta, et on pourra jouer à tout.
Dans un sens, ce n'est pas une mauvaise chose.
Moi, je critique l'art et la manière de balancer parce que ça a fait un buzz monstrueux, surtout que ça a fait un bad buzz sur la sortie d'un des rares jeux Ubisoft qui était valable en début d'année. Et il y a l'art et la manière de dire les choses.
Totalement.
Mais je suis d'accord.
Alors, utopiquement parlant, c'est vrai, ce serait cool parce que les coûts seraient réduits. Mais on le voit, aujourd'hui, les jeux des maths, ils ne sont pas réduits. Ou très peu.
C'est le même tarif. C'est même plus cher.
C'est le même tarif, voire plus cher. Moi, je suis désolé. Quand je paye une édition un peu particulière d'un jeu qui arrive, par exemple, fin février, j'ai payé mon édition un peu cher parce que je sais que je vais avoir mon steelbook, parce que je sais que je vais avoir deux, trois petits goodies à côté, que je vais avoir ma galette. Et moi, je suis désolé. Il y a une chose qui est arrivée l'année dernière et qui montre que le démat, c'est une très bonne chose. Mais le mec, il a perdu son compte. Et comme il a perdu son compte, il a perdu tous ses jeux. Mais ce n'est pas parce qu'il a été striké ou autre. Il l'a perdu suite à une erreur du PSN.
Ouais, ça, c'est fou.
Et donc, il a perdu absolument tous ses jeux. Donc, oui, le démat est une très bonne avancée. Écologiquement parlant, c'est une très bonne chose parce qu'on va arrêter de consommer des matières premières. Mais en revanche, il faut que ça s'aligne derrière.
Mais peut-être que le physique deviendra la version collector du jeu, en fait.
Ouais, bah... Pourquoi pas ? C'est dommage. Alors... Ça peut être intéressant, mais c'est dommage aussi parce que y a des gens qui aiment simplement avoir la galette chez eux sans que ce soit un truc collector.
Moi, je suis fan de jeux boîte, même pas collector.
Bah pareil. Ce que je veux dire, moi, j'ai encore mon FF7 de PlayStation, j'ai encore mes jeux PlayStation 1, j'ai encore mes jeux PlayStation 2.
Sur le rétro gaming, ça s'entend parce que tout le jeu est dedans. Oui, aujourd'hui, c'est pas le cas.
Oui, mais alors aujourd'hui. C'est pareil, à moins que je ne me fasse réellement chier, que je ne sache pas quoi faire, que j'ai plus de films à mater, je vais dire tiens, je vais me prendre un jeu, et là, je vais prendre un démat. Mais sinon, il y a peu de chances que je prenne du démat.
Si je peux intervenir.
Bah oui, bien sûr, tu es là pour ça.
Évidemment.
Non, mais je suis d'accord avec Kevin, mais merci. Si on prend le point de vue Nintendo, les gens en boîte, c'est pas encore terminé pour eux, clairement.
Oh bah, j'espère.
Déjà, quand on prend la Switch. On a tous des amis qui ont la Switch. Ouais. Vous avez sûrement la Switch. Vous savez très bien que vous êtes toujours aux petites cartouches.
Ouais, les petites cartes mémoire. Là.
Et moi, j'ai la Switch. Ouais.
Les gens en numérique, la plupart du temps, c'est des petites merdes en fait, qu'on achète à 2 euros, 3 euros, qui nous font rire 10 minutes. Mais les gros jeux, en général, on les garde en boîte. En fait.
Sur ma Switch Lite, j'ai que des jeux des maths.
Ah ouais,
c'est la Switch Lite aussi.
Oui, mais il y a aussi ça. Je veux dire, en tant que console portable, c'est peut-être plus envisageable d'avoir une console full des maths aujourd'hui.
Ouais, mais je sais pas. Regarde le nombre de ventes de la Switch Lite.
Oui, ben je sais, mais c'est qu'une alternative et elle a été mal vendue aussi, il faut dire. Hein.
Moi, quand j'avais la 3DS, j'avais acheté.
Pardon, jeu synchro.
Quand j'avais la 3DS, j'avais un R4 et du coup, j'avais téléchargé tous mes jeux et c'était un peu illégal, mais est-ce que ça compte comme du démat ?
Oui, mais justement, la question est si les jeux, vous ne les possédez pas, si vous les achetez et que vous ne les possédez pas, est-ce que c'est illégal de pirater des jeux ?
Ah bah.
Ouais. Alors normalement, tu as le droit d'avoir une version copiée du jeu si tu possèdes l'original.
Si tu possèdes la licence.
Oui, mais
donc,
ça.
Au final, ça va. Si... Bon après, moi, aucun des jeux que j'avais téléchargé, j'avais chez moi, mais mais c'était du démat. Au final, c'était quand même pratique. J'avais 1 giga de jeux, donc tu avais une centaine de jeux sur le R4.
Ne faites pas comme lui.
Ne faites jamais comme lui.
Mais si, c'était super. Bah, j'ai testé énormément de jeux qui n'étaient jamais sortis en France.
Si des policiers nous écoutent, nous nous désolidarisons de ça.
Nous vous enverrons évidemment l'adresse d'Arnaud par la, par sur simple demande.
Pour paraphraser un grand homme, qu'ils viennent me chercher.
Oui. Et ils viendront.
Ouais. C'est ça. Et puis, il y a encore une chose à soulever, je viens d'y penser, c'est que les consoles des maths, notamment la dernière Xbox et la dernière PlayStation, quand elles sont arrivées sur le marché, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, elles étaient moins puissantes que leurs consoles qui pouvaient accepter la galette. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Elles avaient moins de mémoire et elles envoyaient moins de pâté. En tout cas, la Xbox était un peu moins puissante.
Oui.
Donc, voilà. Après, je sais que Xbox veut vraiment partager son Xbox Pass, là, oui. Pour qu'on puisse jouer, que ce soit sur PC ou sur sa console de salon, ou n'importe où, on a juste à se connecter à son Xbox Live, et, son Xbox, et on peut jouer. Ça, c'est une bonne idée, mais moi, je suis un vieux, comme vous l'avez suffisamment dit aux dernières émissions, je suis un vieux, je suis désolé, je suis attaché à mon CD, je suis attaché à ma boîte, j'aime avoir bon, pour quand il y en a encore, parce que c'est plus tous les jeux qui le font, mais quand il y a un livret, j'aime quand il y a un livret, et moi, le premier moment de bonheur quand j'achète et que j'ouvre un jeu, c'est l'odeur. L'odeur du neuf.
Grave. Ben.
Moi, je me souviens, mes premières réactions sur FF7, sur FF8, sur FF9, sur tous mes jeux PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, c'était l'odeur quand on ouvrait la boîte. On sentait que personne ne l'avait eu, on sentait que personne ne l'avait joué. Et cette odeur, elle se perd au bout de 3-4 fois d'ouverture. Mais cette odeur, elle est unique. Et ça, c'est le premier bonheur d'un jeu pour moi.
C'est la même que sur les bouquins.
Oui, exactement. Ouais,
et après cet édito du vieux Réac, nous passons à la news de Arnaud.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors moi, j'ai une toute petite news. Alors, vraiment, une newsinette, on peut l'appeler. et qui va concerner très peu de personnes parce que c'est juste un kiff pour moi.
Ah. Mais... si je fais des kiffs à lui-même.
Mais maintenant, sur le Nintendo Switch Online, on peut jouer à Jet Force Gemini 64. depuis le mois dernier.
T'es pas obligé de préciser 64, il est sorti nulle part ailleurs.
Ouais, mais c'est le nom du jeu.
il s'appelle juste Jet Force Gemini, ton jeu.
Je voulais préciser que c'était sur 64.
Sur l'émulateur 64, c'est ça ?
Sur le Nintendo Switch Online. Là, télécharger les jeux 64, mais là, il y a eu Jet Force Gemini.
La moitié de la collection de cette saloperie de Rare Replay qui est dispo que sur Xbox One. Est disponible sur Switch maintenant.
Mais c'est incroyable parce que ce jeu-là, ça fait des années que j'attends qu'il y ait au moins un remaster à la con qui sort quelque part. Tu vois.
Et on se foutait de ma gueule avec GoldenEye.
Mais GoldenEye, c'est quand même beaucoup plus populaire que Jet Force Gemini. Tu vois.
Bah oui, personne ne s'en souvient. Moi, je l'ai fait, mais personne ne s'en souvient.
En vrai, Jet Force Gemini, avec le recul, je me rends compte que c'était un Ratchet & Clank à l'époque.
Bah oui.
Mais exactement Ratchet & Clank. T'as ton vaisseau, tu te balades, t'as des pouvoirs, tu ramasses des nouvelles armes, tu les améliores. C'est un Ratchet & Clank. Et c'était incroyable. Il est extraordinairement beau. Sur 64, vraiment
très
beau.
64, ouais.
Mais Nintendo n'a pas fait de com dessus.
Avec un scénario incroyable. Non, c'était de la merde le scénario. Mais c'était rigolo.
C'est rigolo, c'est la nostalgie parce que t'étais un enfant ou c'est vraiment rigolo ?
Non, c'est rigolo, mais c'est pas transcendant le scénario, mais c'est pas grave. En vrai, le jeu, il y avait une particularité où tu devais sauver des sortes de villageois. Et c'était un petit peu mignon, les villageois, ça ressemblait à des ours en peluche. Et tu pouvais les tuer sans faire exprès dans l'action, donc c'est très bizarre.
Tout à fait, en faisant exprès, mais ça, on ne dit pas.
Exactement. Tu démembrais à peu près tout. Donc les ennemis autant que les villageois.
Je me souviens des jets de ketchup.
Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment super fun, c'était dynamique, c'était très bien, très beau. Très agréable, il y avait énormément de secrets, tu devais fouiller dans les zones, tu trouvais des zones cachées qui débloquaient d'autres mondes. C'était...
Il a aimé.
Ah oui,
mais on le sent.
Sur 64, il n'y avait pas ce genre de jeu.
Bon, eh bien, merci Arnaud de nous avoir partagé ce souvenir.
Et cet enthousiasme.
Et après ce deuxième édito du Vieux Réac, nous allons passer au News Gaming et au journal du gaming de l'émission avec Axel.
Hello.
Je n'ai pas de jingle.
Pas encore.
Presque, bientôt.
J'ai failli en faire un Google Traduction, je me suis dit, pour la blague.
Vous pouvez chanter un truc.
Ouais, allez-y tous.
Ah, moi, je ne sais pas chanter.
Je ne chante pas, même pas pour ma fille.
Voilà, ce sera le jingle.
Ça sera le jingle.
Avant de passer sur sur ce mois de février, on va repartir sur janvier.
Et c'est parti pour 8 pages, tant il y a de choses.
Non, je vous arrête tout de suite. On a déjà fait les news de janvier, je n'ai rien d'autre à dire, mais bien sûr, j'ai joué à un jeu en janvier. Mince, on m'a déjà spoilé. C'est Prince of Persia, The Lost Crown, qui est sorti sur à peu près tous les supports et que j'ai lancé sur PS5.
BG.
Alors, moi, mon petit but, c'est de vous faire ma review, un peu comme un YouTuber pourrait le faire, ou jeuxvideo.com, Gameblog, etc.
Satan.
Alors, pour vous resituer un peu le jeu, c'est un Metroidvania complet, comme il y en a beaucoup, avec une durée de vie qui oscille vers les 20-30 heures.
Ah oui, quand même.
Ouais, quand même. Hein.
Ouais. Sachant que la difficulté est présente, alors j'écris beaucoup de choses, je ne suis pas en train de les dire, je suis en train de...
D'improviser,
voilà,
oui.
D'improviser.
Quand tu dis Metroidvania, il y a un système de level ou pas?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait un système de level. En tout cas, où j'en suis, il n'y en a pas.
Et à un moment, il y a un mode miroir aussi.
Non, parce que sinon, c'est plus un Metroid-like. Tu vois.
Peu importe.
Comme dans Symphony of the Night.
Disons que c'est une map ouverte,
ouais,
où des endroits se débloquent au fur et à mesure de jouer en débloquant des pouvoirs.
Ouais.
Si tu meurs, tu retournes à tes espèces d'art checkpoint.
Stylé.
Voilà. Il y a une vibe. Enfin, moi, j'ai essayé Hollow Knight, j'ai essayé Dead Cells, j'en ai déjà parlé 1500 fois. Hein,
ouais.
C'est un peu cette vibe-là. Le jeu, il est vraiment beau graphiquement. Enfin, pour un jeu 2D, j'entends. Il a une très bonne OST. C'est pas ce que vous avez entendu, mais je voulais pas le risquer de nous faire striker. Le jeu est extrêmement bien doublé, ce qui est plutôt rare pour le.
Ouais.
Déjà, c'est déjà rare d'avoir une histoire avec des voix.
En anglais ou en français?
En français.
Oh, stylé.
Voilà, après, vous, si vous voulez le doublage japonais, anglais, vous faites ce que vous voulez.
Ah.
Est-ce qu'il y a un doublage perse?
Eh bien, écoute, je te répondrai bientôt.
Surtout que Ubisoft, avec Assassin's Creed Mirage, ils avaient fait le doublage arabe.
Je ne me souviens plus des doublages qu'il y avait en présent. Je crois qu'il y avait un truc dans le genre. Je te ferai une screen.
En tout cas, ça relance l'espoir pour le Prince of Persia Remake.
Voilà. Et attends, tu fais bien d'y penser parce que j'ai vu un article tout à l'heure où justement, apparemment, ils sont sur. Il y a les trophées qui ont leaké.
Ah.
Les trophées qu'on leaké, on ne sait pas si c'est une erreur, si ça a été fait exprès et qu'il va sortir incessamment sous peu. En tout cas, vous le saurez avec moi bientôt.
Et en tout cas, les devs du jeu se sentent plus du tout parce qu'ils sont en train de dire qu'ils veulent faire un Zelda.
Ah merde,
c'est une autre histoire, mais je l'ai vu aussi. Ouais.
Si c'est pas Nintendo, Zelda, c'est une mauvaise idée en principe.
Oui, mais c'est ils clair. Ont fait un Mario qui est raisonnablement pas mal.
D'accord. Mario Lapin Crétin.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est vrai, c'était cool. Mais
effectivement,
c'était pas vraiment Mario.
C'est pas le sujet, les gars. Non, je rigole.
Recentre.
Donc, le jeu a de très bonnes sensations. Vraiment, il est dynamique, il est intelligent. Le gameplay est exigeant, donc faut pas faire un peu, faut pas trop faire le con avec les ennemis parce que tu vas vite perdre ta barre de vie. Hein, concrètement, le premier boss m'a défoncé 3-4 fois avant que je commence à comprendre comment le battre.
Ah, sympa.
Mais
c'est un saoul en fait.
Ouais, et moi je joue en mode normal parce que je suis une flippette, je vais pas jouer en mode dur. Déjà, Dark Souls, au bout de 3 boss, j'ai arrêté, donc voilà, c'est pas mon délire.
Quand même.
En tout cas, voilà, les boss ils constituent un bon défi et le gameplay est vraiment évolutif, donc en fonction des patterns des ennemis qui sont parfois imprévisibles. Le système de parade hein, qui n'est pas inventé, qui a déjà été juste réutilisé parmi de tant de jeux, mais en tout cas qui est bien fait, puisqu'une très bonne parade sur certaines attaques ennemies te confère presque un instant kill en fait.
C'est un peu comme Metroid 4 là, qu'ils avaient. Comment il s'appelle sur Switch là?
C'est le zéro, celui où elle n'a pas encore l'armure.
Non. Le récent, Metroid Dread, qui est Metroid 4 au final, tu vois, c'est pas. Et il y a ce système de Paris justement, où tu one-shotais des ennemis comme ça.
Bah, je pense que de toute façon, ça a été déjà récupéré d'autres jeux, et peut-être moins connus, peut-être un peu plus obscurs, comme des Darkest Dungeon, enfin des conneries comme ça. C'est pas Metroidvania d'ailleurs.
Ouais.
En tout cas, il y a des très bonnes features, des amulettes qui peuvent te redonner un peu de santé. Effectivement, ça casse pas trois pattes un canard. C'est pas une invention, c'est de la récupération, mais c'est très bien fait. Donc, en bref, pour aller plus vite, j'ai fait mes 5 plus et mes 5 moins parce que je suis très original.
Très bien.
Le premier point, c'est que c'est un véritable défi, donc avec une durée de jeu très correcte. Vous voyez, j'ai dit 20 heures, c'est 30 heures.
Ouais.
Et quand vous êtes un casual gamer, ce sera plus 40 heures, je pense, le temps que vous, vous arriviez à gagner tous les défis du jeu. La deuxième, c'est qu'il se démarque dans son ambiance, ses décors et biomes, qui rappellent bien sûr les Prince of Persia 3D, mais aussi les Prince of Persia 2D que je n'ai pas connus. Chaque biome est vraiment défini par son environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas proche. Vous êtes dans la forêt, vous êtes dans les égouts, vous voyez la différence et même la musique change. Ça recolle à l'univers Prince of Persia, donc après plus de 10 ans sans vrai jeu. Ce que j'ai dit aussi, c'est que les boss font suer sur les premiers essais. Sur les premiers essais.
Ah, c'est cool ça.
Oui, c'est important. Les mécaniques évolutives, elles n'inventent rien, mais elles apportent du dynamisme au jeu. Et c'est mon cinquième point plus. Les moins, parce qu'il fallait en trouver, c'est que l'histoire est optionnelle et qui n'est pas vraiment marquante, en tout cas à mon niveau. Hein, je ne l'ai pas terminé, mais voilà. On ne fait pas ce genre de jeu pour l'histoire. la difficulté, elle est exigeante, même en mode normal. Donc, je pense qu'en facile, elle ne doit pas être non plus voilà, très, bah, très facile. Donc, il faut, faut s'accrocher, tout simplement. On a aussi des potes immortels qui, bien que bien doublés et qui ont des persos différents, ils n'apportent rien, en fait. Ils n'apportent rien, sur l'instant.
C'est quoi que tu appelles un pote immortel ?
C'est les personnages qui suivent le héros, en fait, que D'accord. tu vois au fur et à mesure. Ils n'apportent rien en gameplay, ils sont là, c'est tes potes.
Tu ne te regardes pas ?
Enfin, moi, pour l'instant, ils m'ont rien apporté. Okay. Après, peut-être que je me trompe, je n'ai pas fini le jeu, mais en tout cas, franchement, on aurait pu le laisser tout seul, le prince, comme d'habitude. sinon, j'ai dit que Sargon, c'était pas ouf comme prénom, et qu'attendre 10 ans pour un jeu Prince of Persia, pour moi, c'était trop. Voilà.
Ouais. Bon, ça va comme moins.
Ça va comme moins.
Est-ce qu'il y a une composante RPG dedans ?
Ah oui, bah, y a une composante RPG, puisque tu peux changer d'arme. Alors, pour l'instant, je suis aux premières armes, mais voilà. Tu as des pouvoirs qui changent, que tu récupères en trouvant des secrets.
Ouais.
Tu as les amulettes, tu as tout ce qui peut te permettre d'augmenter ta vie, ce genre de choses.
Donc, oui, c'est pas totalement RPG, mais oui, ça ressemble plus à un Metroid qu'à un vrai Castlevania.
C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Passons maintenant aux sorties du mois.
Oui.
Avec un mini point sur quelque chose que vous avez déjà vu, je pense, entendu, qui est en accès anticipé. Je ne parle pas de Pokémon, mais j'utilise l'OST Pokémon.
Merci de nous manfucker la gueule.
Je parle de Palworld, qui est en accès anticipé actuellement sur Steam, si je dis pas de bêtises, et qui est sur le... potentiellement sur Xbox, qui est un jeu parodique de l'univers Pokémon, disons-le. Si vous avez vu des extraits, vous voyez des pals, comme on les appelle, qui ressemblent beaucoup à des Pokémon qu'on connaît, mais qui ne sont ni très gentils, et on leur fait pas vraiment du bien, en fait, à ces Pokémon, puisqu'on peut les utiliser comme des armes explosives. Ils peuvent utiliser des armes, mais il y a vraiment une ambiance un petit peu esclavagisme, GTA, je dirais même.
Tout ce qu'on aime.
Voilà. Moi, perso, le jeu me hype. Maintenant, Pokémon, ça ne les hype pas trop, puisque j'ai vu qu'ils vont essayer de voir s'ils ne peuvent pas titiller un peu Palworld pour récupérer peut-être des sous, ou carrément exécuter le soft, tout simplement.
Ça craint.
Bah, de toute façon, ils le font à chaque fois. Ouais, ça là, m'étonne
c'est...
même plus.
Ouais, mais... C'est même pas un jeu Pokémon, quoi. Enfin,
ouais, là, on n'est pas sur un jeu Pokémon. J'en profite, du coup, bah, pour repartir sur le mois de février, puisqu'on est en fin janvier, début février, avec la sortie du 1er février, qui s'appelle Grand Blue Fantasy Relink, qui va sortir sur PS5, Xbox, PS4, qui est développé par Cygames et Platinum Games. Ça ne vous dit rien ?
Si, j'ai le premier qui est un jeu de combat, RPG combat.
Voilà, ouais, et qui ça. Était sorti uniquement au Japon. Là, on est sur un action RPG.
Non, il est sorti, y en a un qui est sorti sur PS4.
Alors, peut-être moi, récemment, mais parce que...
Bah, il est sorti 15 jours, il est sorti entre Resident Evil 3 et le FF7 Remake.
Alors, peut-être. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'est une licence qui est surtout connue au Japon, qui débarque en France, donc en mode action RPG, mode semi-ouvert, bientôt. Ça promet donc une histoire solo intéressante, avec également un mode multi à découvrir. C'est un développement qui a duré de plusieurs années avant que le jeu émerge. Donc là, on a déjà des trailers, vous pouvez aller voir. C'est très prometteur, c'est attendu par les connaisseurs. Moi, je ne suis pas connaisseur, c'est vrai que le côté Japon, ce n'est pas forcément mon truc. Voilà. Et écoutez.
Heureusement, on a des spécialistes de la question.
Voilà. Je ne dirai pas de nom, Arnaud. En tout cas, le jeu devrait être jouable 100% en VR, ce qui est une vraie première pour un jeu du genre, pardon, de ce côté du globe. Je vous invite à regarder le trailer. Moi, j'en connais pas plus, mais en tout cas, allez-y, ça a l'air vraiment bien. Et le multijoueur a l'air prometteur à fond. Le lendemain sort Suicide Squad, Kill the Justice League, qui est développé par... Vous avez la réponse ?
Rocksteady, non ?
Voilà. Donc, un studio qu'on connaît pour la série Arkham, enfin la série Batman Arkham. Oui, non, mais je me suis compris.
Nous aussi, on t'a compris.
Voilà, c'est le principe.
Il fait de la vision.
Derrière, vous avez compris.
Et qui n'a pas développé Gotham Knight.
Attends, ils n'ont pas développé Arkham Origin.
Si, non, pas non plus. C'est Warner.
Mais il me semble qu'ils ont fait Gotham Knight.
Non, c'est Arkham Knight qu'ils ont fait.
Oui, Arkham Knight.
Parce que Gotham Knight.
Ah, Gotham Knight. Oh,
Gotham Knight, c'est les mecs qui ont fait Origins.
Oui, oui, ok. C'est celui où tu avais Nightwing et tout ça.
C'est ça, oui.
Okay.
Il a floppé.
Ouais, bah, ça ne m'étonne pas.
Il n'est pas génial.
Ouais. Et ben, celui-là, peut-être qu'il sera bien. Puisque
il a l'air bien.
C'est Rocksteady. C'est un TPS orienté aventure action qui va sortir sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Vous avez aimé mon accent ?
Ouais, j'adore.
Le jeu promet une aventure solo épique, dynamique, où vous serez mandaté par la CVR. Allez, Amanda Waller. Merci.
Ah, j'allais dire Justice League. Moi, j'étais en
bah non, c'est bah non. La Suicide Squad. Ouais, la Suicide Squad, ils sont au service d'Amanda Waller.
Mais non, oui. Mais j'ai pas suivi.
La patronne de l'agence gouvernementale Argus. Sans avoir le choix, évidemment. Ils sont là pour éliminer la Justice League, qui sont mentalement contrôlés par l'alien.
Brainiac.
Voilà. Brainiac, ouais. Suite à son invasion à Metropolis. On incarne donc Deadshot, Harley Quinn ou encore Captain Boomerang et King Shark qui vont devoir vaincre Superman, Batman, The Flash ou encore Green Lantern qui ne sera pas joué par Ryan Reynolds. Ouais. Désolé pour la blague.
J'allais dire pas par Will Smith.
Non plus. En tout cas, je promets un gameplay dynamique, bourré d'action, jouable en solo ou en coop à 4 joueurs en ligne, j'espère en cross-platform. Le jeu est très réussi graphiquement et d'après les tests, il bénéficie d'une très bonne écriture. Ah bah est-ce cool. que vous êtes hypé ?
Un peu, ouais.
Pas du tout. Parce que c'est la Suicide Squad, bordel. On s'en fout, que ce soit en comics, en film. Pas du tout, on s'en fout, ils sont nuls.
Non, arrête.
Bah, Rocksteady, c'est faire des jeux, alors bon.
Ouais, oui, tant certes, faire, certes, mais c'est ça qui est intéressant. La Suicide Squad, putain, mais on s'en fout de ce qu'ils racontent.
Moi, j'ai vu des films sur ce squad, mais pas live, en animé, qui était incroyable.
Non, non. Il suit plus ou moins la première BD, et il est tout juste moyen comme la première BD.
Ouais, bah, moi, j'ai bien aimé.
Bon, les vieux du Muppet Show, on continue ouais.
Désolé pour les fans de la Suicide Squad. Le 2 février sort également Persona 3 Reload, le remake du 3, dispose sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, PS4 et One.
Mais il n'est pas déjà sorti, celui-là ?
Non, il n'est pas,
pas sorti.
Sinon, j'y jouerai.
C'est un Reload. Et Jujutsu Kaisen Cursed Clash sur toute console. Un jeu de combat tiré du manga éponyme.
À tes souhaits.
En arène 3D, merci. Avec des affrontements composés de deux équipes qui s'affrontent, tout simplement.
Ok.
C'est par équipe.
Ouais, okay. Ouais, c'est par équipe. Après, je ne sais pas si c'est du online ou s'il y a la possibilité, évidemment, de faire de la coop et du solo.
À mon avis, ils vont prendre la même recette que les Naruto. C'est CyberConnect tout.
Ah putain, je l'ai pas noté. Écoutez,
c'est pas grave.
On va dire que c'est pas.
On aura la surprise.
Non, mais quand j'ai vu les images, ça ressemblait beaucoup à ce que font les jeux. Ce que font
les jeux Naruto, ouais.
Ouais, merci. À tes souhaits aussi. Mm-hmm. Le 6 février, on a une exclue PS5 qui est dispo gratuitement avec le PS Plus à sa sortie, qui va s'appeler Foam Stars. Une habitude qui a été installée depuis Fall Guys, hein. Jeu gratuit également à sa sortie, qui porte ses fruits puisque ça attire nombre de joueurs. Développé par Square Enix. Encore eux.
Ah ouais.
Il s'agit ni plus ni moins du Splatoon de Sony, en tout cas fortement inspiré, où cette fois il n'est pas question de peinture, mais de mousse.
Okay.
Le jeu s'appuiera fortement sur la mécanique de glisse, mousse oblige, et permettra à 8 joueurs de s'affronter en 4v4 dans des arènes fun avec bumpers et toutes sortes de features et des environnements colorés lumineux, avec un fort clin d'œil aux salles d'arcade des années 80 ou encore au casino. Je vais vite, hein. Non, tout est là pour le fun. Petit fact qui a fait polémique, certains assets ont été imaginés par une intelligence artificielle. Et ah, ça n'a pas plu à certains internautes. Moi, je trouve ça stylé, perso.
Ouais, bon.
À votre avis, est-ce que ce serait une vague copie de Splatoon ou un jeu fortement inspiré mais différent ?
Je n'ai même pas entendu parler.
Eh ben, comme ça, c'est fait. On passe à la suite ? Allez.
Allez.
Le 13 février sort Banishers, Ghost of New Eden, développé par Dontnod, que vous connaissez.
Oh oui.
Qui sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. C'est un jeu d'action-aventure RPG français, Cocorico,
oui.
Qui vous emmène en 1695, pardon, où deux amants. Antela Duarte et Red McRae, des noms très bizarres, ma foi, chassent les esprits qui tourmentent les humains. Mais Antela perd la vie et devient malgré elle un des fantômes qu'elle a l'habitude de chasser. C'est tragique. Hein. Un jeu résolument.
Je dirais.
Ouais. C'est quoi ?
Ironique.
C'est ironique. Et c'est un jeu résolument, apparemment en tout cas, très cinématographique, tant dans son réalisme que les plans que vous allez pouvoir voir. L'histoire et la narration sont au cœur du jeu, on le sait, c'est Dontnod. Les choix multiples, c'est leur dada, j'ai envie de dire. Et il y aura beaucoup d'énigmes à résoudre.
Et ce sera un mélange de Life is Strange et de Vampire.
Concrètement, oui. Et il y a d'accord. Évidemment des combats. Le jeu est dans la lignée des A Plague Tale. Et perso, moi, ça me donne envie de le faire, à condition de déjà terminer ma pile de jeux à commencer, dont les Plague Tale que je n'ai pas terminé. Sinon, le même jour sort Ultros, un énième Metroidvania à l'univers psychédélique. Pas plus d'infos pour le moment. Ça sort sur PC, PS5, PS4.
D'accord. Okay.
Voilà,
il sort dans 2 semaines et il n'y a pas plus d'infos que ça ?
Pas d'infos. Il y a une vieille image en pixel. Moi, j'ai pas plus. Enfin, pour les amoureux de l'aventure et ceux dont la petite Lara était le premier crush, vous savez ce que vous réserve la Saint-Valentin.
Oh oui.
Au revoir les copines, les fleurs et les restos trop chers, puisque Tomb Raider 1, 2 et 3 reviennent d'entre les défunts sous forme de remasters. Sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Switch. Oui, c'est Rayman Legend.
Ouais, excellent.
Une compilation complète avec des graphismes revus en nostalgie du bon vieux temps. Bon, par contre, vous ne pourrez pas faire ce que vous faisiez sur la PS, on sait. Espérons qu'il ne ressemble pas au remake de GTA 3.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la faire exploser avec le code.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. On ne pourra pas la faire exploser.
Moi, c'est ce que je ne mettais le Tomb Raider 2 dans ma console juste pour la faire exploser. J'adorais ça, c'était très drôle.
Oh putain.
On passe au 16 février ?
On a un sadique.
Ah oui. Ouais, on passe au 16 février.
Allez, vas-y.
Deux grosses sorties qui sont sûrement attendues. Premièrement, Skull and Bones. Le jeu de pirates de chez Ubisoft qu'on n'attend plus, j'ai envie de dire, qui sort sur PC, PS5, Xbox Series 1.
Six jours, ils nous le sortent en bundle avec Beyond Good and Evil 2.
Donc il sort sur PS5 aussi.
Il sort, et il sort aussi sur One et PS4.
Okay.
C'est un jeu de pirates pensé pour le multijoueur. Au programme, c'est un monde ouvert, action RPG en coop, bataille navale dans l'océan Indien. Le jeu se veut plus sérieux et probablement moins fun que le Sea of Thieves. C'est pas un avis perso. Hein. Et j'ai déjà fait mon choix pour le jeu de la piraterie.
Bah oui, évidemment, voilà. Je me doute.
Et la deuxième grosse sortie n'est autre que Mario versus Donkey Kong sur Switch, le retour du puzzle game que vous avez peut-être déjà tous essayé sur la Game Boy ou sur DS avec TR4, Arnaud.
Oui.
Le jeu est un remake.
C'est super.
Le jeu est un remake jouable seul ou en coopération. Le gameplay et les graphismes ont été revus. Peut-être qu'il y a également des niveaux différents. Pas plus d'infos de ce côté-là. Must-have ou remake sans nouveauté ?
Je pense que ça peut être sympa.
Remake.
Kevin, toujours aussi...
Non, il faut arrêter la créativité. Alors, on prend un coup, on nous pond 20 000 remakes, 20 000 remasters, c'est chiant.
J'entends cet argument.
Ouais, mais Tomb Raider 1, 2 et 3 sont injouables.
Oui, et si on ne peut pas la faire exploser, c'est pas drôle.
Je suis sûr, elle explose.
On n'a pas fini sur les remakes. Mais d'abord, le 22 février, on a trois concepts originaux.
Voilà.
On a Pacific Drive sur PC et PlayStation 5, qui est le premier jeu du studio Ironwood, où la conduite et la customisation d'un véhicule dans une zone Wasteland sont ensemble du gameplay. Axé survie et sandbox, le jeu pourrait être fort intéressant à parcourir, puisque la narration ne serait également pas délaissée. Moi, je l'ai mis dans mes listes d'attente, à voir ce que ça fait. Le deuxième n'est autre que Nightingale, le jeu de survie développé par Improbable Games sur PC. Ça se déroule dans un univers fantastique, peuplé de toutes sortes de créatures, vieux monstres difformes au géant qui fait 20 fois votre taille. Ça a l'air sympa, hein. Ça ressemble un peu à... C'était Valheim ?
Ouais, peut-être.
Alors, je vous conseille de regarder
Minecraft,
les images.
C'était Minecraft des Vikings, là, c'est ça ?
Ouais, mais ouais, Minecraft... Minecraft
Bon, un peu dans l'idée, quoi.
Disons que moi, j'ai vu qu'on peut affronter des gens de 20 mètres, ça m'intéresse.
Ah, stylé. Hein.
Mais c'est que sur PC.
Dans Dark Souls, tu peux faire ça aussi.
C'est pas la même difficulté. Le troisième jeu qui sort n'est autre que Open Roads, qui sort sur toute console sauf Switch, bye bye Nintendo, et c'est un jeu narratif développé par Fulbright et édité par Annapurna Interactive, que vous connaissez, où l'histoire sera centrée sur un road trip mêlant habilement dessin à la main en 2D et environnement de fond en 3D. On connaît très bien Annapurna pour Stray, avec le chat, The Outer Wilds, notamment.
C'est incroyable, ça.
Et quant à Fulbright, c'est le studio fondé par des développeurs expérimentés qui ont travaillé sur les Bioshocks, Fear ou encore The Bureau XCOM Declassified.
Ah ouais, classe.
Alors, le jeu incroyable qu'il a cité, c'était Stray. Moi, je l'ai trouvé ouf, ce jeu.
Alors, j'ai adoré. J'ai dit incroyable sur le Outer Wild. Mais c'est vrai que Stray était stylé.
Voilà. Ouais. Là, on avait du renouveau. C'était frais. On n'avait jamais vu ça.
Bah, Outer Wild aussi.
Oui, Outer Wild aussi. Les...
Ouais, bah, Outer Wild, je ne l'ai pas fait en revanche.
Ah, bah, voilà.
Ouais, mais moi, ce Stray. Bah, c'est vraiment le truc, t'es un chat, quoi. T'es vraiment un
putain
de chat.
Ouais, c'est grave,
cool. T'es un chat dans un monde rétro... Enfin,
cyberpunk.
Cyberpunk.
Et il faut se dire aussi que Annapurna sont les producteurs. C'est-à-dire qu'ils ont le flair.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais c'est pas eux qui développent.
Jeu de mots avec les chasses.
J'ai même pas fait gaffe. Le lendemain sort Promenade, sur toute console, un platformer jeu d'aventure type Mario 64, Galaxy, etc. Like, tout ce que vous voulez. Avec des graphismes très dessins animés 2D qui a l'air de valoir le détour. Et enfin, on termine sur deux dernières choses. Le 28 février, nous aurons le droit au remake du jeu Brother, A Tale of Two Sons sur PC, PlayStation 5 Series, quand je te disais qu'il y avait des remakes.
Ouais.
Je sais.
Ce jeu d'aventure précurseur, est du même créateur que It Takes Two, que je ne vous présente pas, du studio Avant-Garden SRL, et c'est un jeu magnifique. Un jour, on fera une chronique dessus.
Ah, il était génial, ce jeu aussi.
Voilà. Brother, A Tale of Two Sons, c'est un jeu jouable en coop sur une manette. Donc, à l'époque, c'était assez original. Enfin, c'est toujours original, d'ailleurs. À se procurer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire à l'époque. Et enfin, pour clore le mois, vous savez très bien, attendez, je ne dis rien et je vous laisse juste écouter.
C'est con, on a tous le sourire aux lèvres.
Et oui, enfin. La suite de Final Fantasy VII Remake, baptisée sobrement Rebirth, pourquoi faire dans l'original, qui sort uniquement sur PS5, va enfin être jouable et elle aura suscité des années d'attente et d'impatience. Je n'ai plus rien à dire. Les gars, qu'en pensez-vous? Arnaud?
Méga, méga chaud. Mais si, j'ai des trucs à rajouter.
Méga, méga arnaque.
Non, 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 non. Attendez, là, moi qui gueule sur les remakes et tout, même moi, je gueule pas. Ils ont revisité le monde, ils ont revisité le gameplay, ils ont revisité l'histoire.
Non, mais ils ont remake, quoi.
Ils ont fait un vrai remake. Ils ont pas juste fait un remaster avec des graphismes exceptionnels. Non, là, ça va être
ouais,
tout simplement
20% d'un jeu.
Oui, mais ils
on verra,
que,
on verra.
Ils
on
l'ont
verra.
Dit que ce serait une trilogie.
On verra.
Il faut bien qu'ils en gardent sous le pied.
J'espère que ce sera plus qu'une trilogie, parce que là, on n'est même pas à la fin du premier
CD. Si, en fait, si. C'est juste qu'ils vont mettre les mondes dans un autre ordre.
Ah.
Ça ne sera pas le même. Ça sera pas la même
chose.
Mais du coup, je vais
avec
rajouter.
Avec votre pognon aussi, ouais.
J'aimerais rajouter des trucs sur la news. J'en ai pas parlé parce que je pensais que tu allais en parler. Mais demain, enfin, du coup, on ne sait pas quel jour on est, mais là, vendredi, du coup, le 26.
C'était il y a une semaine que tu viens de me dire, là.
Le vendredi 26, il y a Tekken 8 qui va sortir. Et du coup, moi, je suis quand même méga chaud. Et il y a aussi un autre 8, c'est Yakuza 8. Je ne sais pas si vous êtes des fans de la série Yakuza, mais c'est extraordinaire comme jeu et j'ai quand même super impatient pour ça aussi.
J'en ai parlé le mois dernier, il faut écouter. Hein.
C'est vrai. Bah écoute, je le redis parce que je suis encore extatique, les gars.
Non mais oui.
Même alors, ça se passe à Hawaï. Hein.
Le mot extatique est sorti.
Non mais en revanche, Yakuza 8, les gars. J'ai hâte de mettre des tartes à Arnaud. Ça va être drôle.
Je vais te savater, mon gars.
Ah, voilà, on y est là.
Mais c'est à ça qu'il faut jouer.
Carrément, ouais.
Bref. Merci pour ces news, merci pour ce journal du gaming. On passe tout de suite à la suite de cette première partie de la Geek Nation du mois de février avec le Master of the Geek.
Qui sera le nouveau champion? Qui connaît par cœur l'actu du mois? Qui sera le nouveau Master of the Geek?
Et oui, qui sera le Master of Zero du mois? Bref, je vous propose 4 questions et on va les improviser.
Avec plaisir. Est-ce qu'on improvise les réponses aussi?
Hein? Oui, normalement, oui.
Très bien.
Bref, première question. Je veux la date de sortie de Stalker 2.
C'est quoi Stalker 2?
Je ne sais même pas de quoi tu parles.
C'est un film?
Non, c'est un FPS.
Ah ouais?
Oui, la suite de Stalker Shadow of Chernobyl.
Et il est sorti quand le premier?
En 2006. Et ça fait des années qu'on l'attend déjà, parce qu'en plus, il a été reporté à cause de la guerre en Ukraine, parce que les développeurs sont de Kiev.
Ah, merde.
Ouais.
Et ils ont dû déporter leur... Ils ont dû... Non, mais laisse tomber.
Donc, j'imagine qu'il est sorti ce mois-ci, le jeu.
Non, non. Quand est-ce qu'il va sortir?
Ah, mais il n'est pas sorti
encore. Non, pas encore.
Ah. Tu veux une année, un mois, un jour? Tu veux quoi?
Je veux un mois, un jour, une année.
Le 23 mars 2024.
Non.
C'est plus ou c'est moins?
C'est plus.
J'en ai aucune idée. Vas-y, le 31 décembre 2024, tu sais, c'est les mecs qui...
Avant.
Le 17 octobre 2024.
Avant.
Le 15 juillet.
Avant. Après.
Donc déjà
après.
2024.
Après. Oui, 2024.
Le 22 septembre. Le 22 septembre.
Oui, septembre 2024. Oui, il me reste le jour.
Le 17.
Avant.
Le 21.
Ah non, avant.
Le 13.
Le 3.
Ah, après.
Le 5.
Oui.
C'était facile du premier
sorti
coup.
Sorti sur Xbox Series et PC, la suite... tant attendu de Stalker, qui avait déjà connu Call of Pripyat, sorti en 2009, Shadow of Chernobyl, sorti en 2007, et Clear Sky, sorti en 2008. Ça va plaire aux joueurs PC et consoles qui vont pouvoir se retenter un petit tour à Tchernobyl.
C'est quoi, c'est un FPS?
Oui, c'est un FPS. C'est un FPS type Fallout.
Métro, genre, un peu, ou pas du tout?
Plus proche de Fallout.
Ok, d'accord.
Et dans l'ambiance, c'est du métro, mais dans le gameplay, c'est plus Fallout. C'est même plus hardcore
donc
que
c'est
Fallout.
C'est un RPG, quoi.
Oui, c'est un RPG. C'est okay. Un FPS RPG. Adapté, évidemment, de la nouvelle, enfin, du livre des frères Strugatsky, sorti dans les années 70, et évidemment, du film de Tarkovsky. Sorti dans les années 70. Non, le bouquin, c'est les années 60. Bref, moi, je suis très hypé. J'ai plein de potes qui sont ultra hypés dessus, mais vous, non, pas du tout.
En fait, moi, j'ai surtout un problème avec tout ce qui est Fallout, Cyberpunk, etc. C'est que je trouve que le RPG en mode FPS est ultra imprécis. Je déteste ça, je ne suis pas précis et ça m'énerve.
Une petite séquence du thème du Stalker, premier du nom, Shadow of Chernobyl, qui Bah, qui est très glauque en fait.
Le titre n'est pas très engageant. C'est quoi le stalker dans ce jeu ?
Le stalker, c'est un mec qui traverse la zone.
Ah,
et tu es le stalker. Et tu traverses la zone. Et la zone, c'est Tchernobyl.
D'accord.
Il y a des
après la catastrophe.
Dedans.
Oui.
Je crois que j'avais vu un gameplay à l'époque du 1. Et c'est vrai que c'est le genre de jeu qui peut m'hyper.
Et ben voilà.
Il sort sur,
il sort sur Xbox Series et PC.
Le 5 septembre 2024.
voilà. Exactement. Bref. Bon, une question plus proche de nous. Ah. Au cinéma, dans une semaine, sort la nouvelle, le nouveau film, la nouvelle adaptation de City Hunter, alias Nicky Larson en France. Je veux que vous me donniez le titre de ce film.
Putain, je
c'est
l'ai
pas
vu
La Poussière d'Ange, un truc comme ça.
Non, ça c'est.
Alors si.
Le
parfum de Cupidon.
Voilà, alors si. Oui, mais c'est pas le titre qui a été gardé pour la version française.
C'est vrai ?
Bah non.
Merde.
C'est le même que la version américaine.
Ah, donc le nom est en anglais en français.
Oui, le nom est en anglais.
Même en français ?
Oui, même en français.
Angel Dust ?
Voilà.
D'accord.
Et on retrouve pour la première fois l'évocation de la drogue dans City Hunter en animé.
C'est vrai qu'en animé, il n'y avait pas...
Puisque c'est là-dessus que tourne une grosse partie du manga. La plupart des éléments dramatiques dans le manga, la mort du frère de Kaori à Hideyuki, sont perpétrés par le cartel de l'Union Théop qui trafique de la drogue, et notamment celle-là.
Alors, moi, la question je pose, c'est est-ce qu'avec le doublage français, on aura le droit à du Nicky Larson type Club Dorothée, ou est-ce que là, ils vont respecter, ils vont vraiment coller à City Hunter ?
Alors, on est entre les deux.
D'accord.
Parce que tous les personnages s'appellent Nicky Larson, Laura Marconi, tout ça, mais plus de Maurice Sarfati, vu qu'il nous a quittés il y a quelques années.
Ouais.
Donc, on garde sur un doublage proche de l'original, en gardant les noms originaux, les noms français.
Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'ils vont nous faire le coup Larson, oh, je suis méchant, ou est-ce que vraiment...
Non, ça a l'air sérieux.
Vu que, pour avoir vu Shinjuku Private Eyes, il est ultra sérieux.
D'accord, ok. Bon,
il garde le côté Nicky Larson pour le côté nostalgique. Le distributeur a imposé ça, à la différence de Dybex, qui voulait absolument qu'on double avec les acteurs de la série, mais en disant Ryo Saeba, Kaori Makimura,
Et
bien là, ils ont gardé les noms français avec la justesse et la
version japonaise. Ils gardent le thème sérieux et
c'est
voilà.
Ça.
Ouais, c'est
donc, ça peut être étrange. Il sort en salle.
En France.
Je sais qu'il va sortir en salle. D'ailleurs, je vais probablement aller le voir.
Voilà. Et je vous conseille radicalement, si vous ne connaissez pas City Hunter, de vous y mettre parce que ça vaut 10 000 fois Nicky Larson.
Oh, c'est un parti pris.
La série,
parce que
tu veux
les
dire
deux sont excellents.
Est-ce que je peux vous montrer, enfin vous faire écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce Nicky Larson, Angel Dust ?
Allez, on va le tâter.
Pourtant, vous m'avez engagé, n'est-ce pas ? Je suis à la fois garde du corps, masseur, cireur de chaussures à talons, habilleur de mannequins et maître nageur.
Ah, t'es dans toi ! Vous voulez qu'on cherche un chat ? Je sens qu'il est dans les parages.
Il fait un métier dangereux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous feriez si Monsieur Larson se faisait tuer aujourd'hui ? Nicky ne craint personne.
Le seul super soldat à ne pas avoir succombé à l'attente.
On va enfin pouvoir s'affronter, toi et moi.
Ce sont des nanomachines qui transcendent le corps humain. C'est l'Angel Dust Mode.
Pourquoi est-ce que vous voulez tuer Nicky ?
Tu sais bien que si la situation l'exige, tu peux compter sur moi.
Ce nom, Nicky Larson. On dirait bien qu'il te plaît, finalement.
On retrouve évidemment Vincent Ropion et Daniel Douai qui doublaient à l'époque Nicky Larson et Laura Marconi, avec une tripotée de nouveaux doubleurs qui sont ultra cool, ce qu'on entend là. TM Network est de retour à la bande originale et ressort une nouvelle version de Get Wild exprès pour ce film.
Exceptionnel. Exceptionnel.
Et encore une fois, je suis méga LP.
Alors,
ça hype,
ouais. Moi, j'ai toujours aimé Nicky Larson avec les doublages où ils font n'importe quoi. Et sur le tard, j'ai découvert City Hunter. Avec le doublage japonais qui changeait vraiment l'ambiance. Et j'adore les deux. Donc là, le truc, c'est qu'ils veulent respecter une ambiance. Je ne sais pas si je vais aller le voir en VO ou si je vais aller le voir en VF.
Bah là, pour le coup, tu auras le meilleur des deux mondes dans les deux versions, en fait.
Ouais, je pense.
Parce que tu seras toujours sur. Ils vont suivre le trait du manga et de la série japonaise. Et en plus, les 4 size seront de la partie.
Je vais le voir, je signe tout de suite.
Qui était déjà dans Shinjuku Private Eyes, donc elles ont officiellement intégré l'univers de City Hunter.
C'est le même auteur.
Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de la série d'animation, Kenji Kodama, qui a réalisé la plupart des épisodes de la série et la plupart des versions longues, a fait appel à Tsukasa Ojo pour l'écriture de ce film.
Ça va être énormissime.
l'auteur du manga, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, parlons cinéma maintenant, mais cinéma américain.
Ok.
Sur Paramount Plus vient de sortir l'ultime film de William Friedkin, décédé cet été, avec Kiefer Sutherland dans le rôle principal. Pouvez-vous me donner le nom de ce film ?
Non.
On connaît ?
C'est le remake d'un film culte. Enfin, culte, qui en tout cas qui est très connu dans l'histoire du cinéma.
Alors, il y en a beaucoup.
Grave, c'est sûr.
Il y en a énormément.
J'allais dire Shining.
La version originale, il y a Humphrey Bogart dedans. C'est un film de justice. C'est comme dans Des Hommes d'honneur. Ça se passe dans un tribunal.
C'est 12 hommes en colère ?
Non. William Friedkin a déjà adapté 12 hommes en colère.
D'accord. Dans un tribunal, donc un huis clos, encore une fois.
Dans une cour de justice militaire, comme dans Des Hommes d'honneur.
Putain.
C'est un remake de Hitchcock ?
Non. Ah. C'est un remake de Warren Mitrick.
Je connais pas les gars.
Ah, là, moi non plus, là, je suis
largué. Ouais, même pour moi, là, t'es largué.
Désolé, les gars qui écoutent. Ou enfin, tout le monde qui écoute.
C'est le remake d'Ouragan sur le Kane.
D'accord.
À savoir l'affaire de la mutinerie du Kane, qui est l'histoire d'un sous-officier qui prend le commandement. Pas dans un petit problème technique dans un bateau. Et le problème, c'est que tout le monde s'en sort, le capitaine avec. Et donc là, il passe en cour martiale.
Ouais,
et il doit se défendre de son acte, qu'il pense de toute bonne foi, alors que le capitaine est en train de virer un peu. Quoi.
Ouais, d'accord.
Dans le film original, on avait Humphrey Bogart. Cette fois-ci, on a Kiefer Sutherland. Et une distribution... très moderne, très ouf. Pour avoir vu le film dernièrement, William Friedkin, si vous adorez, vous allez encore kiffer. Hein, je veux dire, le mec est mort en nous laissant une critique de l'Amérique de plus. Et surtout que le co-réalisateur de ce film est encore plus inattendu. Est-ce que ça, vous le savez ? J'en ai parlé dans une précédente Geektation avec l'ancienne équipe.
Non.
Non.
L'homme qui a été désigné par les assurances... parce que, oui, William Friedkin se savait en train de mourir et les assurances voulaient quand même que le film se termine, on lui a imposé un réalisateur. Et c'est lui-même qui a donné un nom. Il a dit « Je veux absolument que Guillermo del Toro m'assiste sur ce film. »
Ah, d'accord.
Donc, Guillermo del Toro a co-réalisé, entre guillemets, c'est surtout pour le cachet de l'assurance, le dernier film de William Friedkin, et il était tout content de le faire.
Il est sorti quand, ce film ?
Il est sorti fin janvier sur Paramount Plus, en exclusivité, malheureusement.
Non, mais à l'original.
L'original, dans les années 50 ?
Le remake, quand est-ce qu'il est sorti la première fois ?
Non, l'original est sorti dans les années 50, Ouragan sur le Kane, et le remake est sorti fin janvier 2024 sur Paramount Plus.
Ah, mais il n'existait pas avant.
Il vient de sortir. C'est le nom du dernier film de William Friedkin, ça.
Donc il est mort récemment, le gars.
Oui, William Friedkin est mort cet été.
Ah, ok, d'accord. C'est une info que j'ignorais. Je pensais que sur Paramount Plus.
Le 5 septembre 2024.
Voilà. Exactement.
Cet été. L'été dernier, le 5 septembre 2024.
Bon, j'ai une question à vous poser.
C'est pas la première.
Qu'est-ce que des chercheurs américains ont fait à un bonobo ?
C'est pas le singe qui a joué à terminé Minecraft ?
Eh, si.
Ah,
il y a des chercheurs américains qui ont fait terminer Minecraft à un bonobo.
Moi, l'info la plus ouf, c'est qu'on peut terminer Minecraft, là.
Oui, tu affrontes un dragon.
Ah oui,
et
le dragon de
Minecraft.
Ah oui, c'est vrai.
Et le moyen le plus rapide de le tuer, c'est de lui envoyer des tables pour lui exploser à la gueule.
Ben, je sais pas ce que le bonobo a fait.
Il y a moyen de voir sa partie,
oui,
ou pas ?
Alors oui, il y a deux vidéos qui existent. La première, c'est celle des chercheurs qui ont expliqué leur expérience et montré, mois après mois, l'entraînement qu'ils ont donné au singe. Et on a une vidéo de sa partie au moment où il bute le dernier boss.
Il faut vraiment que je regarde.
T'imagines, des gens, ils ont galéré à terminer Minecraft et là, on leur dit qu'il y a un singe qui l'a fait. Quoi. C'est chaud de ouf. C'est chaud.
Tu vas rigoler, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai regardé les commentaires. Les gens, ils étaient en mode...
C'était ouf.
C'est pas possible. Il y a un YouTuber qui a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, un Américain, bien sûr.
C'était toujours un singe, le YouTuber, ou pas ? C'est un singe, le youtubeur, ou pas ?
Non, mais dommage. Il a rencontré le singe. Enfin,
c'est un honneur, merci.
C'est un honneur, monsieur le bonobo.
C'est ouf.
Oui, bah oui, oui, c'est ouf. Et on la preuve que les jeux vidéo sont des jeux pour idiots. Non, je déconne.
La preuve que les singes sont nos proches cousins et qu'ils peuvent être parfois plus intelligents que les nôtres.
Voilà.
Oui, parce que alors moi, je suis incapable de jouer à Minecraft. Hein.
Parce que t'aimes pas ?
Non, parce que je ne comprends pas.
Je connais un singe qui pourra t'expliquer.
Voilà. Maintenant, tu connais un singe qui pourra t'expliquer.
C'est ça.
que j'allais dire.
Bon, sur ce, avant que ça dérive vers l'évolution et je ne sais quoi, et la désévolution d'Arnaud, je vous propose que nous nous quittions et qu'on se revoie la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette Geek Nation.
Et j'ai eu un point.
Oui. C'est hallucinant. Bref, sur ce, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut.
Ciao.
Salut.
Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine.
Non, j'ai mis dans l'ordre, tu te débrouilleras.
Quand il a fait son discours sur...
Mais rajeuni.
Je le mettrai en noir et blanc.
Avec une musique un peu triste. Hein.
On peut réécouter ou pas?
J'aurais dû me prendre un portrait, vous aurez plus le story.
Mais je peux le...
Bref, vous êtes prêts?
Ouais.
Bah oui.
C'est moi.